Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 6 novembre 2023. En direct de Washington, Rosine Mounezero. Pour commencer, les titres. Au Cameroun, une vingtaine de personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque dans l'ouest du pays. La junte au pouvoir en Guinée a démis une soixantaine d'officiers et agents des services pénitentiaires dans l'opération Commando. Le bilan des morts à Gaza dépasse désormais les 10 000 selon le Hamas. L'armée israélienne accuse le groupe de construire des tunnels sous des hôpitaux et les écoles. Dans notre partie magazine, l'association des femmes peules en Amérique du Nord organise une collecte de fonds en vue de soutenir des initiatives en Afrique. Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Cameroun, une attaque armée a fait au moins 20 morts et plusieurs blessés ce matin à Monfé, localité située à plus de 500 km de Yaoundé, dans la région du sud-ouest en zone anglophone. Les autorités ont attribué l'attaque aux séparatistes anglophones. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Jules Emmanuel Jultap.
L'attaque est survenue autour de 2h30 temps universel ce lundi dans le quartier Ekbekoué. Selon le préfet du département de la Magnou, dont la ville de Manfé est le chef-lieu, Vierme Kalat, préfet de la Magnou.
Aux environs de 3h30, nous avons subi des coups de feu. Les terroristes ont utilisé des moyens de feu, des armes traditionnelles, une vingtaine de morts et environ 7 personnes gravement blessées, environ une dizaine de maisons brûlées.
Sur des vidéos amateurs de l'armée, l'on aperçoit, sur la cour de la mort de Manfé, des corps d'enfants, de jeunes filles, de femmes et d'hommes violemment abattus. Une source médicale de l'hôpital de Manfé a confié à VOA Afrique que certaines victimes ont été violées. L'attaque a été attribuée aux séparatistes anglophones, Victor Aremengot, ministre chargé des missions à la présidence de la République.
S'en prendre aux populations qui sont dans les lits, brûler les maisons. On a eu des hommes et des femmes, des enfants, plus d'une vingtaine tués. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Nous profitons pour essayer de transmettre les condoléances de la plus haute autorité du pays aux familles qui ont été endeuillées.
L'attaque de ce jour a coïncidé avec la date marquant l'accession au pouvoir du président Paul Biya, qui cumule 41 ans de magistère. Yaoundé, Emmanuel Jumdap, VOA Afrique.
Une soixantaine d'officiers ont été démis de leurs fonctions en Guinée après l'opération Commando qui a ébranlé le pays en faisant provisoirement sortir de prison l'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara et 3 co-détenus. Alexandrine Rolognon nous en dit plus.
Les autorités militaires de Conakry ont multiplié les assurances qu'elles maîtrisaient la situation. Ce chaos a été stoppé, a déclaré hier le Premier ministre Bernard Goumou, qui a appelé la population au calme. Samedi, des hommes lourdement armés ont extrait de la prison centrale Moussa Dadis Camara et 3 autres prisonniers, ce qui a déclenché une chasse à l'homme dans tout le pays. 3 d'entre eux, dont le capitaine Dadis Camara, ont été repris le jour même. Un 4e homme, Claude Pivi, est toujours en fuite. Au moins 9 personnes ont été tuées pendant l'opération, selon un bilan encore provisoire avancé dans un communiqué par le procureur général Yamoussa Kanté. Moussa Dadis Camara et d'autres personnes sont jugées depuis l'année dernière. Ils sont accusés d'avoir orchestré un massacre dans un stade et un viol collectif par les forces de sécurité guinéennes, au cours desquels 150 personnes ont été tuées lors d'un rassemblement en faveur de la démocratie en 2009. Camara a nié toute responsabilité, imputant les atrocités à des soldats égarés.
L'opposition malgache a de nouveau tenté de protester lundi, mais les manifestants ont été dispersés et l'un des candidats à l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 16 novembre, a été interpellé, a-t-on appris auprès de la police. Madagascar est secoué depuis des semaines par une bataille électorale féroce entre le pouvoir et une dizaine de candidats qui s'opposeront dans les urnes au président sortant Andry Rajoelina. Plus de 1,6 million d'enfants de moins de 5 ans sont menacés de malnutrition en 2024 au Soudan du Sud en raison notamment des conséquences des inondations. C'est ce qu'a alerté ce lundi le Programme alimentaire mondial. Le point avec Eric Maniakis.
Nous constatons une augmentation extrêmement préoccupante de la malnutrition à cause notamment des inondations et du surpeuplement qu'elles engendrent dans certaines zones. Ce sont les jeunes enfants qui en souffrent le plus durement, souligne dans un communiqué la directrice du PAM au Soudan du Sud. Le communiqué évoque notamment la situation dans le comté de Orumkona, dans le nord, où les eaux ont submergé de vastes étendues de terre, obligeant des communautés entières à vivre sur de petites îles depuis 2021. Le coût des denrées alimentaires de base y a grimpé de plus de 120% depuis avril. C'est la réalité de la vie en première ligne de la crise climatique, estime l'OPAM. En mai, l'UNICEF estimait que la malnutrition menaçait 1,4 million d'enfants en 2023. La crise a été aggravée par l'afflux de centaines de milliers de Sud-Soudanais fuyant la guerre au Soudan, qui se retrouvent en situation d'urgence alimentaire. Peuplé d'environ 11 millions d'habitants, le Soudan du Sud est aussi confronté à des phénomènes climatiques extrêmes, dont d'importantes inondations aux effets potentiellement dévastateurs pour des millions de personnes.
Plus de 20 civils ont été tués dimanche soir par la chute d'obus sur un marché à Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, la capitale du Soudan, déchirée par la guerre entre généraux rivaux depuis avril, a annoncé une ONG. La veille, au moins 15 civils ont été tués par des obus tombés sur leur maison à Khartoum, selon une source médicale. Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide FSR paramilitaire, puis général Mohamed Hamdan Daglo, a fait plus de 9 000 morts et plus de 6 millions de personnes déplacées, selon une estimation de l'ONG ACLED. Au Nigeria, des djihadistes ont tué au moins 11 agriculteurs et plusieurs autres sont portés disparus après une attaque contre des rizières dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, ont indiqué lundi des milices anti-djihadistes et des habitants. Les agriculteurs sont souvent la cible des militants islamistes qui mènent un conflit de 14 ans dans le nord-est du Nigeria où 40 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées depuis 2009.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En visitant en Turquie, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis une extension dans les jours à venir de l'aide humanitaire à destination des habitants de la bande de Gaza assiégée par l'armée israélienne. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous travaillons très activement pour obtenir davantage d'aide humanitaire et je pense que vous verrez dans les jours à venir que l'aide peut être étendue de manière significative. C'est ce qu'a déclaré Anthony Blinken au terme d'un tête-à-tête avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé que de gros progrès ont été réalisés ces derniers jours pour venir en aide aux civils gazaouis. Tandis que des centaines de manifestants pro-palestiniens étaient réunis aux abords de son ministère, M. Fidan a demandé à son homologue américain un cessez-le-feu immédiat et complet dans la bande de Gaza. Les États-Unis privilégient plutôt des pauses pour acheminer l'aide humanitaire. Le terminal de Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte rouvre aujourd'hui pour permettre l'évacuation d'étrangers et de binationaux. Sur le terrain, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé plus de 200 morts dans des frappes israéliennes nocturnes à Gaza. Israël parle de frappes significatives qui se poursuivront dans les prochains jours. L'Afrique du Sud a rappelé ses diplomates dans l'État hébreu pour consultation.
Par ailleurs, le gouvernement sud-africain a annoncé lundi sa décision de rappeler ses diplomates en poste en Israël pour des consultations pour signaler son inquiétude au vu de la situation dans la région. Il s'agit d'une pratique normale lorsqu'une situation est très préjudiciable et préoccupante, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, lors d'un point de presse distinct. En France, depuis lundi et pour 10 jours, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est assis sur le banc des prévenus d'un tribunal accusé de conflit d'intérêts dans le cadre de ses fonctions. S'il est reconnu coupable de prise illégale d'intérêts, il encourt 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Son départ du gouvernement, où il a été nommé en juillet 2020, serait inévitable.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a repoussé dimanche l'idée même de négociations avec Moscou, a annoncé qu'une enquête allait être menée sur la mort d'un groupe de soldats ukrainiens décimés par un tir de missile russe. Vendredi, de nombreux soldats ukrainiens réunis dans la région de Zaporizhia, dans le sud du pays, ont péri quand leur groupe a été pris pour cible par un missile russe. Selon les médias locaux, ils avaient été réunis pour une cérémonie de remise de décoration près de la ligne de front. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Mindon.
Au Cameroun, le volume des investissements que le pays a contracté sous la forme des partenariats publics-privés s'élève à 4 931 milliards de francs CFA au 30 septembre 2023, soit près de 17,8% du PIB national. C'est ce que révèle Financial Afrique s'appuyant sur une information du Comité d'appui à la restructuration et à la promotion des associations et sur une note de conjoncture mensuelle de la dette publique du Cameroun élaborée par la Caisse autonome d'amortissement. Ici aux États-Unis, le sénateur démocrate Chris Coon, l'un des principaux acteurs de la politique américaine à l'égard de l'Afrique, a déclaré que le programme AGOA devrait être prolongé de 16 ans. Des pourparlers sont en cours en vue du renouvellement de cette loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, vieille de 2 décennies qui doit expirer en 2025. On reste aux États-Unis où 150 000 emplois ont été créés en octobre, soit de moitié moins qu'en septembre et en deçà des prévisions, a annoncé vendredi le département du travail. Les secteurs de la santé, les emplois publics et l'assistance sociale ont embauché, mais l'emploi a reculé dans l'industrie manufacturière en raison de la grève. Le taux de chômage est, lui, en légère hausse à 3,9%.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Débutée hier, la Ligue des champions féminines africaines se poursuit en Côte d'Ivoire.
Oui, le groupe B entre en lice à San Pedro, dans le sud-ouest. Les tenantes du titre marocain d'AS Far font face aux Guinéennes d'Apem d'Ankoa et les Équato-Guinéennes d'Ourakan jouent contre les Maliens de l'AS Mandé. Hier, dans le groupe A, basé à Kourougo dans le nord, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont réussi leur début en battant 2-0 les Tanzaniennes de JKT Queens. En revanche, le club hôte Atlético FC d'Abidjan a été accroché 1-0 par le second représentant marocain, le Sporting Club de Casablanca. Ce tournoi dont la finale est prévue le 19 novembre prochain sert de test pour la prochaine CAN prévue en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire.
Athlétisme avec les 2 victoires africaines lors du marathon de New York.
Chez les dames, la Kenyane Hélène Obiri a remporté le plus célèbre marathon du monde après un incroyable sprint final dans les rues de New York. Partie sur des bases très lentes, les favorites se sont cachées jusqu'au 35e kilomètre avant de faire exploser la course et terminer à toute vitesse. Hélène Obiri a passé la ligne d'arrivée en 2h27 minutes et 23 secondes, soit 6 secondes seulement devant l'Éthiopienne LTCB guidée. Derrière, la tenante du titre Sharon Lokedi complète le podium. Brigitte Kosgei, qui détenait il y a quelques semaines encore le record du monde de la distance, termine au pied du podium.
Chez les hommes, le scénario de course a été complètement différent.
Tout semblait possible après les forfaits des favoris kenyans Evans Chebe et Godfrey Kamworor. L'Éthiopien Tamira Tola, parti avec le meilleur temps des engagés, a pris les devants dès la mi-course pour se débarrasser rapidement de la concurrence et remporter la course en solitaire. Il a terminé en 2h04 minutes et 58 secondes, devançant de quasiment 2 minutes le Kenyan Albert Kourir et l'Éthiopien Shura Kitata. Il s'est aussi emparé du record de la course qui datait de 2011, devenant le premier homme à finir le marathon de New York sous les 2h05. Cette course est le dernier marathon majeur de l'année. Avec 50 000 coureurs au départ, elle clôture une saison 2023 marquée par 2 nouveaux records du monde.
On finit avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont laissé fondre une large avance de 22 points et perdu après prolongation face aux Toronto Raptors du Camerounais Pascal Siakam 123 à 116. Après sa performance historique pour un rookie, jeudi à Phoenix 38 points, Wambanyama a compilé 20 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 contres. De son côté, Phoenix, deux fois battu par San Antonio cette semaine, s'est rattrapé en dominant Détroit à l'extérieur 120 à 106 grâce aux 41 points de sa star Kevin Durant. Les Golden State Warriors de Stephen Curry, 28 points, se sont eux inclinés à Cleveland 115-104.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero de retour avec vous. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'armée a décidé d'envoyer au front plusieurs leaders de syndicats, d'organisations de la société civile, des hommes politiques ainsi que des journalistes. Ces personnes, pour la plupart, devront au moins être sur le terrain pendant 3 mois. La majeure partie de ces leaders pensent que c'est une forme de musellement. Mais pour certains analystes, c'est une disposition légale et il faut s'unir pour lutter contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au moins une dizaine de leaders syndicaux, politiques, organisations de la société civile, journalistes sont concernés par ces réquisitions. Ce qui autorise ces réquisitions, c'est le décret sur la mobilisation générale pris en avril dernier par le capitaine Ibrahim Traoré. Les personnes réquisitionnées pensent que c'est une manière de faire taire définitivement les voix discordantes. Dr Daouda Diallo, coordonnateur du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés concernées par la mesure.
Ce décret est une mesure punitive, voire criminel contre des citoyens sincères et honnêtes qui apportent une critique constructive pour une meilleure marche de la nation. J'invite tout Burkinabé sincère, tout patriote qui ne se bat pas uniquement pour son ventre ou pour des intérêts ponctuels, mais pour l'avenir du pays à se mobiliser pour barrer la route à l'autocratie et à la dictature qui est en marche.
Ladji Bama, un journaliste aussi réquisitionné, juge la mesure arbitraire.
Je ne suis pas prêt à me soumettre à ces réquisitions que j'estime être suffisamment arbitraire. Je ne sais pas sur quelle base cela a été décidé. Pour ce qui me concerne, je suis journaliste de profession, je n'ai pas été formé pour être militaire. Qui décide de qui va au front et sur quelle base? Et quand je regarde la liste des personnes qui sont concernées par ces réquisitions, il est clair que c'est pour mesurer des gens. Moi, je ne suis pas me soumettre à ça. Ça ne pousse aucune logique.
Mais certains analystes estiment que c'est légal et l'essentiel, c'est de se mettre ensemble pour faire face au terrorisme. Idrissa Ouedraogo, conseiller en communication et analyste politique.
C'est légal, comme tout le monde le dit. Ce n'est pas ce fait seulement qui intéresse. Si c'était sur le point de vue de la légalité, on n'en parlerait pas. C'est la personnalité de ceux qui ont été appelés, qui ont été réquisitionnés, qui suscite des analyses, des controverses, ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous permet de gagner la guerre? Est-ce que la guerre nous permet d'avancer? Est-ce que les bruits nous permettent d'avancer? Pour moi, c'est vraiment à chacun de voir. Chaque parole, chaque acte, est-ce que ça concourt à nous faire gagner la guerre? Après la guerre, et ça c'est mon point de vue, après la guerre, tout est possible. Ceux qui vont commettre des gaffes, après la guerre, ils vont le payer.
Ce lundi, la coalition de syndicats et d'organisations de la société civile qui envisageait organiser un meeting le 31 octobre dernier et qui n'a pas pu se tenir a dénoncé et condamné l'ensemble des réquisitions. Elle a demandé l'annulation de ces réquisitions. Depuis hier, plusieurs organisations et mouvements ont aussi condamné ces réquisitions. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Guinée, au moins 9 personnes ont été tuées samedi à Conakry dans l'opération Commando, au cours de laquelle des hommes lourdement armés ont fait provisoirement sortir de prison le leader de l'ex-junte Moussa Dadis Camara et 3 co-détenus, a indiqué le parquet général lundi matin avant d'être arrêté à nouveau. Plusieurs officiers de l'administration pénitentiaire ont été radiés de l'armée. Pour savoir les derniers développements, Modibo Dembélé, adjoint à Kankan en Guinée, Demba Keita, journaliste sur place, qui nous en dit plus.
Effectivement, oui, la dernière information qu'on a maintenant concernant la situation toujours qui prévaut la nuit du vendredi au samedi. Aujourd'hui, il y a les 3 ou 4 personnes qui ont été évadées, à savoir l'ex-président Capitaine Moussa David Camara et Colonel Teboro Moussa Lodipigui et Blaise Demou. Au jour d'aujourd'hui, il y a les 3 Moussa David, Colonel Lodipigui, Moussa Teboro, ils sont retournés à la maison centrale. Ils sont maintenant au niveau de la recherche, car Claude Pigui est toujours en fuite. Selon le ministre Tarouet, la poursuite quand même est engagée pour faire tout afin qu'il retourne en prison aussi.
Le procureur général Yamoussa Konté a déclaré lundi que 9 personnes étaient décédées à la suite de l'opération commando d'évasion. Qu'est-ce que vous savez sur ce dossier?
Tout ce qu'on attend maintenant, c'est la déclaration du procureur Yamoussa, car il y en a qui disent qu'il y a 10, 11 ou 9, mais jusqu'à aujourd'hui, on attend la déclaration du procureur Yamoussa pour en savoir plus, il y a combien de soldats qui ont été tués lors de l'événement malheureux qui s'est passé dans la nuit du vendredi à samedi.
À la date d'aujourd'hui, comment se porte Conakry actuellement après la tentative?
La date d'aujourd'hui, il y a la palme en poker et les gens qui sont massivement sortis, chacun va dans ses petits blocs, car le ministre Sarwat, y compris le poker, ils ont rassuré la population d'aller faire leurs activités et la poursuite continue quand même. Selon les dernières informations, aujourd'hui, il y a le calme, tout va bien en Guinée.
C'était Demba Keïta, journaliste, joint à partir de Cancan, en Guinée.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
L'association des femmes peules en Amérique du Nord a tenu un déjeuner de collecte de fonds ce week-end en vue de soutenir des initiatives en Afrique dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agro-business. C'était samedi à Silver Spring dans le Maryland. Eric Manilakiza a suivi pour vous son reportage.
Vêtues de leur tenue traditionnelle, ces femmes peules et leurs invités ont commencé la journée en partageant un déjeuner festif composé de mets africains. Par la suite, elles ont présenté les progrès réalisés dans les projets en cours. Sally Peterson a souligné qu'en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie, plus de 1000 femmes ont été traitées pour la fistule, tandis que des centaines d'autres attendent encore au Mali.
Nous avons commencé d'abord par la Guinée, où nous avons travaillé avec des docteurs guinéens. Et ce projet a bien réussi, donc nous avons implémenté ce même projet au Sénégal. Et aussi actuellement, nous sommes en train de le faire, de travailler avec des docteurs au Mali, où nous finançons un projet pour faire les opérations. C'est des centaines et des centaines qui attendent en ce moment au Mali.
Originaire du Burkina Faso, Sally met en lumière l'assistance que Fouana apporte aux enfants déplacés à Ouagadougou.
Il fallait rétablir leurs actes de naissance et essayer de les inscrire dans les écoles des zones dans lesquelles ils se trouvent maintenant, notamment dans la capitale à Ouagadougou. Et donc nous avons procédé au rétablissement de leurs actes de naissance et puis nous les avons inscrits. On a pu inscrire un certain nombre d'enfants à l'école au niveau de Ouaga et ensuite nous leur avons fourni des sacs avec des fournitures scolaires.
Thiam est venu soutenir l'action de Fouana et a été marqué par ce qu'il a vu.
Il y a un projet qui a retenu mon attention. C'est celui qui a trait aux questions de fistule en fait en Afrique. C'est un projet qui est très émouvant en fait. Et c'est un projet qu'il faut encourager parce que quand on sait les difficultés que certaines femmes africaines de l'Ouest traversent, si elles sont victimes de cette maladie-là, c'est très regrettable. C'est lié à des considérations irrationnelles.
Cet événement a également été l'occasion de mettre en avant quelques danses africaines qui ont apporté de la joie, comme l'a montré Mariama.
Quand je danse, je m'oublie, j'oublie les soucis de la vie, j'oublie les problèmes, j'oublie tout et je me fais du plaisir. Oui, c'est ça. C'est pour cela que je danse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bien que les désaccords avec les dirigeants arabes sur un cessez-le-feu à Gaza persistent, les États-Unis plaident en faveur d'une pause humanitaire. Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé dimanche que sans le retour des otages pris par les militants du Hamas, il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Michel Joseph.
Au cours d'une visite inopinée en Irak, le secrétaire d'État Anthony Blinken a mis en garde les tierces parties contre les tentatives d'élargissement de la guerre entre Israël et le Hamas.
À tous ceux qui chercheraient à profiter du conflit à Gaza pour menacer notre personnel ici ou ailleurs dans la région, nous disons ne le faites pas.
L'engagement des États-Unis en faveur de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et le soutien à une solution fondée sur la coexistence de deux États ont également fait partie des sujets abordés par M. Blinken lors de sa rencontre avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas dimanche en Cisjordanie. Au cours du week-end, M. Blinken a rencontré les ministres arabes des Affaires étrangères. Il leur a expliqué que les États-Unis n'étaient pas favorables à un cessez-le-feu immédiat dans cette guerre, car cela permettrait au Hamas, taxé de terroristes par les États-Unis, de se regrouper. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, John Feiner, s'est exprimé à ce sujet lors de l'émission This Week sur la chaîne télé ABC.
Nous avons clairement indiqué que nous soutenons et préconisons des pauses humanitaires pour permettre la distribution de l'aide humanitaire afin de faciliter éventuellement la libération d'autres otages.
Mais un cessez-le-feu ne sera pas déclaré tant que le groupe militant Hamas n'aura pas rendu les otages qu'il a enlevés lors de son attaque terroriste du 7 octobre, a souligné le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'une visite sur une base de l'armée de l'air israélienne. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a participé à l'émission Meet the Press de la chaîne NBC, a indiqué qu'il se rendrait en Israël si les conditions le permettaient afin de faciliter le retour des Ukrainiens bloqués. On lui a également demandé s'il pensait qu'Israël respectait le droit international humanitaire.
Si des terroristes attaquent, s'ils décapitent des enfants, vous avez pleinement le droit de défendre les gens et de défendre votre propre pays, votre État. Si nous pouvons ouvrir des couloirs humanitaires, amener des prisonniers de guerre, aider des personnes qui ne sont pas impliquées, le monde entier devrait le faire.
Ces remarques sont intervenues alors que la responsable du programme alimentaire mondial, Cindy McCain, a de nouveau averti que les réserves de nourriture s'épuisaient à Gaza et que la crise menaçait la paix et la stabilité de la région.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.